Et c'est reparti pour les midis. Deuxième partie, à 13h, je recevrai la comédienne Blanche Gardin. Mais tout de suite, place au Point Culture avec Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie. Commence vendredi la 40e édition du Festival du Livre Gourmand de Périgueux. Cette année, sous la présidence d'honneur du chef 3 étoiles Pierre Gagnaire, entouré de 80 chefs, d'éditeurs et d'auteurs. Événement phare pour les amoureux du livre et de la gastronomie, le festival remet 3 prix littéraires, dont le prix de la Mazille, qui récompense une monographie ou un ouvrage collectif sur la cuisine, les pratiques culinaire, l'alimentation ou le fait de manger en général. La place du livre de cuisine dans l'édition française, c'est le dossier du Point Culture du jour. Déborah Dupont-Dagué, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes libraire, autrice de livres de cuisine et jurée au prix du Festival du Livre Gourmand de Périgueux. Alors je commence, si vous voulez bien, avec votre casquette de libraire. Comment se porte le marché du livre de cuisine aujourd'hui ?
Alors le marché du livre de cuisine se porte plutôt pas mal, mais est quand même en décroissance par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les mois et même les 2-3 ans qui ont suivi vraiment la pandémie du Covid.
C'est-à-dire qu'après la pandémie, les gens se sont mis à cuisiner et maintenant on revient à un cycle plus normal comme avant, ou quand même on reste dans des scores assez hauts ?
Alors, le cycle d'avant était déjà des scores assez hauts. Ce qu'il faut voir, c'est que le livre de cuisine et le livre pratique de manière générale sont des secteurs très porteurs de l'édition. De l'édition entendue au sens large. Donc tout le monde a besoin de manger, hein. Donc tout le monde a besoin de cuisiner. C'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Alors effectivement, après le Covid, les gens ont eu réellement besoin. Les restaurants étaient fermés pendant plusieurs mois. Il y a eu un repli vers soi. On a pris d'autres mécaniques et on s'est aussi rendu compte qu'une génération arrivée à l'âge adulte n'avait pas forcément eu cette transmission au sein des familles ou au sein d'autres structures. Donc il a fallu se documenter. On se documente dans quoi ? Dans les livres.
Alors justement, peut-être un mot sur votre lectorat. Dans la librairie, vous voyez autant de femmes que d'hommes. Il y a une histoire d'âge. Qui, en fait, achète des livres de cuisine aujourd'hui ?
Tout le monde achète des livres de cuisine, que ce soit hommes, femmes, jeunes, vieux, des étudiants, des lycéens, parfois même des enfants. On a des enfants qui sont passionnés de cuisine. On se retrouve avec vraiment tout public, plus ou moins averti, qui peut parfois arriver via les émissions télé, via les émissions radio, parce qu'il y a quand même énormément de médias qui s'intéressent à la cuisine, mais aussi, mais encore une fois, une question d'utilité, c'est-à-dire mon enfant part s'installer pour faire ses études, il va avoir besoin de se nourrir. Jusqu'à présent, ça arrivait tout près à table. Là, cet enfant va devoir se débrouiller, donc on lui fournit un livre.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, on a parfois l'impression qu'aujourd'hui, le livre de cuisine s'est plutôt tourné vers ce qu'on appelle un beau livre. J'entends un gros livre avec des illustrations. Or, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça reste quand même pour les gens un manuel, un livre où on apprend des choses.
Alors, il y a effectivement le livre de cuisine, c'est un vocabulaire qui est très très large. C'est-à-dire, ce qui va être le plus médiatisé, ce sont les beaux livres. C'est ce que vous avez dans toutes les sélections de fin d'année, dans les magazines, quand vous avez une double page avec les 10 livres de cuisine de fin d'année. Effectivement, ce sera souvent du beau livre. Donc, beau livre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire livre de chef ou de pâtissier-pâtissière. Donc, on est sur des choses assez techniques. Et ça va être beaucoup la cuisine du monde. La cuisine du monde, ça fait rêver. Donc là, on parle de livres qui sont entre 30 et 80 euros. Pour schématiser, des beaux livres, grand format, mais qui sont presque intimidants et qu'on va pas forcément mettre dans la cuisine.
Ah, qu'on va mettre sur une table basse, quoi, vous voulez dire. C'est presque un livre, voilà.
C'est exactement ça. Il y a 30 ans, tout le monde avait sur sa table basse La Terre vue du ciel de Yann Arthus-Bertrand. Et maintenant, tout le monde a Yotam Ottolenghi. On va schématiser, mais c'est un peu ça, c'est un peu ça. Ça fait rêver, des belles photos. Et puis, c'est aussi un marqueur social, hein. Ce type de livre assez quand même onéreux, et puis encore une fois avec du stylisme, avec des maquettes, avec des choses comme ça, ça montre qu'on s'intéresse à cette thématique de la gastronomie. Et puis ensuite, il y a la cuisine. La cuisine, c'est l'acte de manger tous les jours. Et là, on est sur des manuels pratiques. Le livre, il a besoin de pouvoir s'ouvrir, tenir tout seul, avoir une couverture suffisamment solide pour accepter des taches de farine, de beurre, d'eau. Enfin voilà, on va le corner, on va l'utiliser, on va presque le martyriser, ce livre, dans la cuisine. Et ça, c'est quand même la réalité du gros des achats. Dans les meilleures ventes actuelles, on a tous les livres sur le air fryer, donc cet appareil d'électroménager qui a révolutionné les cuisines. Ça, c'est les têtes de vente, c'est quand même la réalité.
Est-ce qu'il y a, vous parliez des cuisines d'ailleurs, c'est vrai que ce sont des livres, parmi les beaux livres que l'on voit beaucoup, avec de très belles illustrations qui nous font déjà voyager, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'exotisation justement sur ces nombreux livres qui présentent des gastronomies lointaines ? Est-ce qu'on va s'essayer à la cuisine japonaise dans sa cuisine ?
Alors, la cuisine japonaise, c'est presque celle qui est présente avec la cuisine italienne depuis le plus longtemps, à la fois sur les linéaires et dans les habitudes des Français. Donc, ce sont des produits, maintenant, dans n'importe quelle petite supérette, supermarché, hypermarché, vous trouvez de la sauce soja, vous trouvez des pâtes italiennes, enfin, ça va encore. En revanche, on a certains pays plus exotiques, effectivement. Par exemple, cette année, on a quand même 2 livres de cuisine brésilienne qui sortent là sur cet automne, et on a 1 livre de cuisine géorgienne. Là, c'est vrai qu'on commence à être sur des thématiques un petit peu pointues, où il va falloir trouver l'épicerie correspondante. C'est un peu le paradoxe, mais les éditeurs adaptent les tirages. On est sur des plus petits tirages, on est sur du marché de niche et on l'accepte en tant que tel. Ça peut être parce qu'on rêve de cette destination et on peut pas encore forcément y aller, on peut pas se la payer. Ça peut être parce qu'au contraire, on y est allé et on a envie de retrouver de retour en France qu'on a pu manger pendant notre voyage. Voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être tout simplement on a envie de rêver. Parce que c'est vrai que c'est génial. La cuisine du monde, très souvent, on n'est pas sur du photo-recette. On a de l'histoire, on a de la culture, on a autre chose que simplement une liste d'ingrédients et des séquences techniques à reproduire.
Vous évoquiez les livres des chefs. C'est vrai qu'il y a parfois une personnalisation assez forte hein, des auteurs. Le jeu J.E. est très présent. Est-ce que ça permet, selon vous, un lien plus fort avec le lecteur ?
Alors, le livre de chef, oui, on a clairement un phénomène, on a envie de s'apparenter, on a envie de le découvrir, on a envie un peu de rentrer dans l'intimité. Les chefs sont devenus des people, au même titre que les acteurs, les chanteurs, les sportifs et sportifs. Le chef est devenu une icône en 2025, clairement. Donc c'est vrai que le livre de chef va permettre, d'avoir cette proximité. Alors ensuite, est-ce que la proximité peut se reproduire dans l'assiette? Ça va dépendre du livre de chef. On a clairement, d'ailleurs nous, dans les 2 librairies gourmandes, que ce soit à Paris ou à Dijon, notre rayon de livres de chef est séparé en 2. On a le rayon de livres de chef au quotidien, où là ce sont des chefs qui donnent un peu leurs trucs et astuces et leurs recettes de tous les jours de eux quand ils reçoivent ce qu'ils ont pu connaître dans leur enfance avec leur maman, leur grand-mère, ainsi de suite. Et puis on a le livre de chef qui s'adresse à ses pairs. Donc là, on est sur un livre beaucoup plus technique où il faut avoir accès à des produits souvent onéreux, souvent des produits très nobles.
Et du matériel aussi, hein, qu'on n'a pas forcément dans nos cuisines. Oui.
Et du matériel et une technicité. C'est-à-dire que là, on parle de personnes qui sont clairement aguerries en cuisine. Donc, le vocabulaire est plus technique, les découpes vont être plus précises, les températures de cuisson vont être extrêmement précises. Donc, c'est pour ça. Nous, vraiment, on sépare entre les deux, même si, concrètement, tout est un livre de chef.
Oui. Alors, un dernier mot, peut-être, avant de finir cet entretien, Déborah Dupont-Daquet, sur le Festival du Livre Gourmand. Alors, vous êtes jurée cette année du prix. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Je crois qu'on peut pas encore savoir qui est le gagnant. On le saura vendredi. Mais peut-être sur votre expérience de jurée, qu'est-ce que vous en retenez?
Alors, ça fait plusieurs années que je suis membre de ce jury. Et à chaque fois, nous sommes sous la présidence d'un chef. Cette année, c'est Pierre Gagnère. Et c'est toujours très intéressant. On a un étudiant ou une étudiante en métier du livre sur l'Université de Bordeaux. Et on en a un autre ou une autre. Cette année, c'était 2 jeunes filles qui est en lycée hôtelier. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir leur regard. Et dans le jury se trouve aussi l'adjoint à la culture de la mairie de Périgueux et des journalistes en plus de moi. Donc, on a quand même un profil assez varié, ce qui permet d'avoir des sensibilités différentes. On est guidé par une grille de lecture, c'est-à-dire qu'on nous demande de pouvoir qualifier, on note en fait, on a vraiment une grille avec notation, sur la practicité, est-ce que le livre il a été imprimé en France, est-ce qu'il y a bien une table des matières qui nous permet de retrouver les recettes. Donc on a quand même des critères assez précis qui permettent de se guider. Généralement, ça permet d'en sortir 3 ou 4 sur les 8, 9, 10 sélectionnés. Et puis ensuite, effectivement, on va discuter pour faire émerger et de mon expérience sur les 4 dernières années, à chaque fois, ça s'est fait à l'unanimité.
Ah, très bien. Donc, on surveillera ça ce week-end.
Exactement. C'est vendredi soir à Périgueux.
Bien, merci beaucoup, Déborah Dupont-Daquet.
Merci.
Et pour finir, Marie, le Booker Prize 2025 a été remis hier.
Oui, et c'est l'écrivain britannico-hongrois David Salé qui remporte cette prestigieuse récompense pour son 6e roman Flèche. Dans cet ouvrage non traduit en français encore, l'auteur de 51 ans raconte l'histoire d'un Hongrois émigré à Londres qui finira par retourner dans son pays natal à la fin de sa vie. Il succède à Samantha Harvey, lauréate 2024, pour son livre Orbital. Créé en 1969, le Booker Prize est l'équivalent du prix Goncourt pour le monde littéraire anglo-saxon. Il récompense chaque année une œuvre de de fiction en anglais et offre une dotation de 50 000 livres sterling à son gagnant.
C'est pas le même prix que pour le Goncourt.
Non, non.
10 euros. Merci beaucoup Marie, on se retrouve demain pour d'autres actualités culturelles.
À demain.